RFI.
6h52 à Paris, on retrouve Nathalie Amar pour la revue de presse Afrique. Bonjour Nathalie.
Bonjour Magali, bonjour à tous.
À la une, la prison à perpétuité pour Octavian Ngenzi et Tito Baraya.
Pour la deuxième fois, la France prononce de lourdes condamnations en lien avec le génocide rwandais après celle de Pascal Simbi-Kangwa il y a 2 ans à 25 ans de réclusion. La cour d'assises de Paris a suivi le réquisitoire qui désignait les deux anciens bourgmestres de Cabarondo comme à la fois superviseurs et bourreaux des valets des planificateurs du génocide. Qui, selon les mots de l'avocat général Philippe Courroy, ont manqué leur rendez-vous avec l'humanité et avec le pardon en niant jusqu'au bout. Ce fut un procès hors norme, ajoute le journal Le Monde. Près de 250 heures de débats filmés, des audiences souvent interminables, un changement de président en cours de route, une centaine de témoins, plus de 30 tonnes de procédures. Deux anciens bourgmestres rattrapés par leur passé, titre Le Pays au Burkina Faso. Et le journal s'interroge maintenant. Quelles peuvent être les conséquences de la condamnation des génocidaires rwandais sur le sol français? Va-t-on assister à une normalisation très prochaine des relations entre Paris et Kigali? Pour Le Pays, en tout cas, ces condamnations ne sont pas pour déplaire au régime de Paul Kagame qui n'avait de cesse d'accuser Paris d'abriter impunément des génocidaires sur son sol. Pourtant, dans les colonnes du New Times de Kigali, le ministre de la Justice du Rwanda, Johnston Busingye, réserve à cette condamnation un accueil plus que mitigé et il cite des chiffres. Nous sommes, dit-il, 22 ans après le génocide. Il y a en France 39 mises en examen, 15 demandes d'extradition qui ont été systématiquement refusées sans aucune base légale, 28 affaires toujours pendantes devant les tribunaux. 3 procès en 22 ans, conclut le ministre, c'est un phénomène spécifiquement français.
La République démocratique du Congo également à la une ce matin.
Oui, Direct CD s'interroge sur, je cite, une arrivée imminente à Kinshasa de Moïse Katumbi et Étienne Tshisekedi. Selon Direct CD, l'ancien gouverneur du Katanga et le patron de l'UDPS se seraient rencontrés hier à Bruxelles et se seraient promis de se retrouver bientôt sur le sol national. Hier sur RFI, Moïse Katumbi affichait sa volonté de rentrer au pays malgré sa récente condamnation. À noter par ailleurs que Ban Ki-moon, le numéro 1 de l'ONU, présentera tout à l'heure au Conseil de sécurité à New York son rapport trimestriel sur la situation en République démocratique du Congo. L'ONU redoute le pire, titre le site d'information congolais 7 sur 7.
La justice a suivi son cours, c'est à la une du journal sud-africain Cape Times.
Oui, à propos cette fois de la condamnation d'Oscar Pistorius, il s'agit en fait du commentaire de l'avocat de la famille de Riva Steenkamp, l'ancien champion paralympique reconnu coupable de meurtre, condamné à 6 ans de prison. Manifestement, d'après The Cape Times, même si la sentence aurait pu être bien plus lourde, jusqu'à 15 ans de prison, la famille de la victime devrait en rester là et ne pas faire appel.
Et puis Nathalie, le Zimbabwe à l'arrêt.
C'est le titre de The Financial Gazette de Harare. Le journal décrit une capitale au ralenti. Ce mercredi, le marché de Copacabana, d'habitude si animé, totalement vide. Des élèves obligés de rentrer à la maison en l'absence de leurs profs. Un mouvement d'une telle ampleur, c'est une première depuis le milieu des années 90, note le journal, qui rappelle aussi les dégâts causés par la politique économique de Robert Mugabe. 80% de la population qui vit dans la plus totale pauvreté. Et des Zimbabwéens privés de l'application WhatsApp, c'est le Mail and Guardian qui le rapporte. Les manifestants ont immédiatement soupçonné hier le gouvernement d'être à l'origine de ce désagrément. Le gouvernement parle, lui, d'un simple problème de réseau et incrimine les opérateurs de téléphonie mobile. Quoi qu'il en soit, le journal livre à ses lecteurs les 5 recettes pour contourner la censure, en s'inspirant notamment de l'expérience des internautes ougandais lors de la réélection de Yoweri Museveni. Lundi, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU adoptait une résolution condamnant les privations d'accès à Internet pour les citoyens de certains pays, les mêmes droits que les peuples hors ligne, en particulier la liberté d'expression, doivent aussi être protégés en ligne, affirme cette résolution. La Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite, mais aussi l'Inde et l'Afrique du Sud s'y sont opposés, Magali.
Merci Nathalie Amard.